font réagir. Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PMO au réseau Cogeco.
Vous connaissez peut-être le fonds Universitas. C'est un régime d'épargne-études. Vous commencez à cotiser lorsque l'enfant est tout jeune. Par exemple, moi, je déclare mon conflit d'intérêts, là. J'en ai trois, vous le savez. Alors, on a pris l'habitude. On donne, depuis l'âge de 2 ans, là, pour chacun des trois, on mettait de côté 100 $ par mois, avec l'espoir qu'ils finissent par se rendre à l'université ou à tout le moins qu'ils fassent un diplôme d'études professionnelles. Alors, on met de l'argent de côté et puis ça nous évite de verser un gros montant lorsqu'ils arrivent à l'université. Bon, alors on a mis des sous dans Universitas et là, on fait partie de ces parents donc qui sont un petit peu mécontents, mettons, parce que Universitas a décidé de changer les règles du jeu. Et pour nous expliquer ce qui a changé, on va aller rejoindre Stéphanie Gramont, qui est journaliste de la presse et qui s'est intéressée à ce dossier-là. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Bernard.
Et je dois dire qu'après l'entrevue avec Stéphanie, mesdames et messieurs, on va parler avec quelqu'un de chez Universitas qui va essayer de nous justifier cette décision. Mais d'abord, Stéphanie, expliquez-nous ce que Universitas a pris comme décision et pourquoi il y a tant de grogne chez les parents.
Ben en fait, Universitas, ça fait quand même plusieurs années qu'ils avaient des critiques qui disaient bon, ben c'est un régime qui est pas très flexible. Si on arrive au bout, que l'enfant ne fait pas d'études, etc., etc. On va pas chercher nécessairement tout l'argent qu'on pourrait. C'était ça le fondement du régime. C'est-à-dire que ceux qui font pas d'études laissent un petit morceau de leur cagnotte qu'ils ont accumulé aux plus studieux qui, eux, étaient pour faire leurs 3 années d'études puis aller chercher tous leurs paiements, les 3 paiements qui étaient permis. Donc, le régime était fait comme ça. Les gens qui adhéraient le savaient, mais il y en a quand même qui trouvaient que c'était pas très flexible, qu'il y avait des pénalités importantes pour ceux qui descendaient du train en cours de route, etc.
Parce que tu pouvais finir par payer, dans le fond, tu mets de l'argent de côté dans l'espoir que ton enfant aille à l'université. Si jamais il n'y va pas, ben, il y a une partie de l'argent que tu avais cotisé qui restait dans le pot pour aider ceux qui continuent, ceux qui se rendaient à l'université. Oui. Il y avait comme oui. Une espèce de pari là-dedans, une forme de prise de risque.
C'est ça. Donc, c'est un phénomène d'attrition. C'était su et connu. C'est des régimes collectifs. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais un bon jour, Universitas se dit, les gens sont un peu, des fois, insatisfaits. Alors, on va changer les règles et on va faire en sorte que désormais, les étudiants auront plus à faire à 3 ans d'études pour aller chercher le maximum. On va leur donner l'argent dès lors qu'ils s'inscrivent à des études postsecondaires. Puis d'ailleurs, la notion d'études postsecondaires a été élargi. Alors, on permet une plus grande accessibilité aux bourses et, l'idée, c'était que davantage de personnes aillent chercher les montants. Mm-hmm. Mais évidemment, la tarte, elle reste la même. Hein?
Ben oui.
Donc, les gens ont cotisé et puis, si on sépare la tarte en plus de morceaux, plus de jeunes, bien évidemment, les morceaux vont être un petit peu plus petits. Alors, les gens, eux, qui avaient des enfants qui étaient pour faire toutes leurs études, les plus studieux, bien là, ils se retrouve aujourd'hui à dire comment ça se fait, j'ai pas le montant que j'avais espéré. Moi, j'ai parlé à plusieurs parents, dont un monsieur, son fils, lui, il avait cotisé pendant 17 ans. Le garçon est rendu 20 ans passé. Il devait aller chercher son dernier paiement cette année et il s'attendait à avoir 7 000 $. Il n'en a reçu que 3 500. Donc, c'est la moitié. C'est quand même une grosse différence.
Oui,
alors, lui, il se dit comment ça se fait que moi, j'ai respecté ma partie du contrat. J'ai payé, j'ai cotisé pendant 17 ans. Si j'avais voulu descendre puis arrêter tout ça, descendre du train, dire non, ça m'intéresse plus, j'aurais pas pu le faire parce que c'est un régime qui est contraignant. Puis là, tout d'un coup, à la toute fin, on prend des mesures rétroactives et ça fait en sorte que je suis pénalisée.
C'est ça, en fait, le problème, Stéphanie. C'est pas juste qu'ils ont changé les règles, parce que ça, à la rigueur, tu t'ajustes à une critique, c'est très bien, mais c'est qu'ils ont décidé de changer les règles rétroactivement. Plutôt que de les changer pour les futurs, ils ont changé ça pour tout le monde, dans le fond, qui avait cotisé, là.
Oui, puis la personne qui a cotisé pendant 17 ans puis qui est en train de recevoir tout l'argent qui lui est dû, elle n'a pas le même intérêt que la personne qui vient d'embarquer l'année dernière puis qui se dit changons les règles, puis ceux qui auraient dû recevoir, ils vont finalement partager avec moi. Parce qu'il y a eu un vote, ça a été soumis aux membres, aux souscripteurs. Et les gens, il faut bien le dire, ont voté à très, très grande majorité en faveur des changements. Mais moi, là où je me questionne, c'est est-ce que les gens ont compris la nature des changements? Bon, ils ont reçu une lettre, ça a quasiment 12 pages. La direction d'Universitas recommandait de voter en faveur des changements. Donc, les gens ont dû se dire, parfait, c'était écrit, vous aurez plus de flexibilité, etc. Puis, c'était pas nécessairement clair que il y a certaines personnes pour qui ça se traduirait par une baisse des paiements. Il n'y avait pas d'exemple chiffré pour avertir les gens de dire, écoutez, peut-être que pour vous, ce ne sera pas favorable. Il y a environ 20% des gens qui perdent au change. Mais ça, ce n'était pas facile de le prévoir.
Penses-tu que c'était voulu, Stéphanie Gramont? Penses-tu que c'était...
Je ne veux pas prêter d'intention à qui que ce soit.
Mais ils souhaitaient, la direction de l'université souhaitait que ça passe.
Bien, c'est certain parce que c'est ce qu'ils recommandaient. Alors, oui, ils ont présenté ça de façon avantageuse. Probablement que eux, leur opinion, c'est que c'était avantageux de voter pour. Ils l'ont recommandé. Donc, c'est tout ce que je peux présumer.
Et là, il y a recours. Enfin, il y a une demande de recours collectif. Hein, il y a plusieurs parents qui se sont inscrits.
Oui. Oui, là, il y a des gens qui se mobilisent. Il y a eu des plaintes à l'AMF. Donc, l'AMF est en train de regarder ça attentivement, là, l'autorité des marchés financiers, à savoir est-ce qu'il y a matière à prendre des mesures. On espère qu'ils vont nous donner la réponse bientôt. Donc, oui, il y a des parents qui essaient de se réunir. Il y a une page Facebook là, qui a été créée pour regrouper tout le monde puis essayer de voir qu'est-ce qui peut être entrepris. Mais c'est sûr que c'est fâchant pour les gens qui se disent, ben coudonc, nous, on avait fait tous nos devoirs, les enfants vont à l'école. C'est un peu comme l'analogie qui me vient en tête, c'est le professeur qui donne un examen, puis là, il y a une question ou deux plus difficiles, et à la fin de l'examen, il se rend compte qu'il y a, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas réussi la question, fait qu'il dit, bon, ben on va l'enlever, je la compterai pas finalement, mais c'est plate pour les étudiants qui avaient bûché, qui avaient travaillé fort, puis qui avaient eu la bonne réponse. Eux autres, ben, ils disent, ben, coudonc, j'ai travaillé pour rien.
C'est une très bonne analogie. On va se laisser là-dessus, Stéphanie Gramont, parce que je vais aller rejoindre justement la porte-parole de Universitas. Je rappelle, Stéphanie, que vous êtes journaliste à la presse et que vous avez écrit sur ce dossier-là. Merci beaucoup.
Plaisir.
Et c'est Isabelle Grenier, donc, est vice-présidente des affaires corporatives chez Universitas. Bonjour, Madame Grenier.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Alors, comment vous réagissez à cette comparaison de Stéphanie Gramont qui dit, dans le fond, vous pénalisez ceux qui ont fait leur devoir, qui ont respecté le contrat, alors que vous, vous avez décidé de le changer, le contrat, rétroactivement?
Bien, écoutez, nous, c'est sûr que dans un monde idéal, n'est-ce pas, on aurait voulu pouvoir satisfaire 100% de notre clientèle. Et la décision qui a été prise, c'est effectivement une décision qui est très importante. C'est pour ça que on l'a pas prise seule, cette décision-là. On est allé consulter nos souscripteurs. Donc, au terme d'un processus qui est démocratique, qui s'est fait vraiment en toute transparence, nos clients ont voté massivement en faveur de la mesure qui leur était proposée.
Il y en a combien qui ont voté?
Alors, il y a plus de 26 000 personnes qui se sont prononcées.
Ça représente quel pourcentage?
Ça représente, vous savez, dans un processus comme ça, normalement, quand on est autour de 5 à 6 %, on estime que c'est un bon taux de participation. Et dans notre cas, on a eu un taux qui a été plus que le triple. Donc, on a eu près de 16 % de gens qui se sont prononcés.
Donc, vous avez 16 % des parents qui ont cotisé, 16 % qui ont accepté ce changement-là. Donc, vous en avez tout près de 85 % qui, eux, ne l'ont jamais approuvé.
Ce que nous avons fait, là, quand on a fait cette demande de vote de nos souscripteurs, on s'est vraiment assuré que, d'abord, les gens avaient une information qui était la plus claire possible. Puis, on ne s'est pas contenté d'envoyer des documents leur demandant de se prononcer sur le vote. On a vraiment mis toutes les énergies nécessaires pour les rejoindre. On a fait appel à une firme externe qui a fait des appels téléphoniques pour s'assurer que les gens avaient bien reçu leur enveloppe, qu'ils avaient voté. C'est important pour nous de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et comme je vous l'ai dit, dans ce cas-ci, vraiment, on est content du taux de réponse qu'on a eu qui dépasse largement ce que l'on retrouve dans un processus normal comme ça.
Madame Grenier, moi, je vais faire abstraction du fait là, que je fais partie de ces parents là, qui sont affectés par votre décision, même si je l'ai dit ouvertement. Là, donc, je vais laisser les auditeurs juger de ma bonne foi là, dans les questions que je pose. Mais quand je lis dans le papier de Stéphanie Gramont, elle dit, il y a un paragraphe au milieu des 11 pages bien tassées qui avertissaient les souscripteurs que les paiements pourraient être réduits. En tout cas, Stéphanie Gramont, je vais me fier sur elle, elle n'a pas l'air à penser que vous avez vraiment fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour attirer l'attention sur le fait que les paiements allaient être réduits. Là. Quand vous l'avez présenté aux parents, là, c'était pas si évident que ça, que c'est ça qui allait se produire.
Et pourtant, M. Drainville, dans la documentation qu'on a envoyée, il y avait vraiment une illustration des impacts potentiels pour un client. C'était, je pense, très bien illustré. Mmh. Et les gens nous ont appelé notre service à la clientèle pour avoir de l'information là-dessus. On a toujours répondu à leurs questions. Et c'était manifeste que, par exemple, dans le plan universitaire, 50 % des enfants, de façon normale, n'allaient pas chercher leurs 3 versements de paiement d'aide aux études. Donc, ils laissaient de l'argent sur la table. Et puis, et c'est ça qui causait une déception au fil d'arrivée. Vous savez, quand vous souscrivez pour votre enfant, quand il est tout petit, vous ne savez pas à l'avance ça va être quoi son processus, son cheminement académique. Alors, on espère tous qu'ils se rendent au doctorat, peut-être, mais ce n'est pas le cas des gens en général. Alors, ce qui se passait, c'est que les gens qui ont souscrit il y a maintenant 10, 12, 15 ans, arrivaient à la fin du processus d'épargne, se rendaient compte que leur enfant, s'il ne suivait pas le parcours académique qui était requis pour aller chercher leurs 3 paiements d'aide aux études, par exemple, s'il faisait, disons, une technique au cégep, il y a d'excellentes techniques au cégep, bien là, il se trouvait à aller chercher seulement 2 paiements sur 3.
Et on avec les changements que vous avez faits, oui. Ils vont aller chercher les 3 paiements pour une technique au cégep?
Maintenant, c'est en plein ça, M. Drainville. Ce qui arrive maintenant, c'est que votre enfant, dès qu'il est inscrit à des études postsecondaires, il a accès à l'entièreté des sommes qui ont été mises de côté pour lui. C'est non seulement, évidemment, le capital que vous avez mis de côté, ça c'est toujours intact, mais les revenus accumulés sur votre capital, votre rendement propre, lui, il n'est aucunement affecté par la mesure. Et chose très importante à noter également, les subventions à l'épargne études. Vous savez que les subventions peuvent chiffrer jusqu'à 10 800 $ par enfant.
Oui.
Avant, avec nos anciennes mesures, notre ancienne façon de faire, si votre enfant allait chercher les 2/3 de ses paiements d'aide aux études parce qu'il ne se rendait pas à terme à l'université, ne faisait pas, par exemple, un bac en 3 ans, vous aviez seulement aussi les 2/3 de votre subvention.
Et okay,
la
donc,
balance,
donc,
ça allait la retourner au gouvernement.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'avec les anciennes règles, il fallait que l'enfant se rende à l'université et fasse son bac, fasse ses 3 années pour avoir droit aux 3 paiements.
Oui.
Ou encore... Corrigez-moi si je me trompe, mais s'il faisait un diplôme d'études professionnelles, il avait droit aussi, non?
Il en avait un seul sur 3.
Il en avait un sur 3.
Oui.
Et s'il faisait une technique, il en avait 2 sur 3.
Il en avait 2 sur 3.
Alors que là, s'il fait un DEP, est-ce qu'il va avoir les 3?
Oui, il va y avoir accès, et ce, dès l'inscription des études. Donc, ça veut dire qu'il peut aller chercher l'argent au moment où il en a le besoin.
Au moment où il s'inscrit.
Au fur et à mesure de sa progression, exactement.
Mais même s'il finit, mais s'il finit pas... Vous l'aurez donné, même s'il finit pas, alors que l'idée, c'est d'encourager quelqu'un non seulement à s'inscrire, mais à réussir son cours, que ce soit DEP, technique ou bac.
Nous, évidemment, c'est la responsabilité du contribuable de s'assurer que les sommes qu'ils retirent servent à payer les études. Nous, on leur fait confiance là-dessus. Les gens vont gérer leur argent correctement. Mais vous savez, à travers tout ça, évidemment, on n'entend pas parler des clients, des bon nombre de clients qui sont satisfaits. Vous savez que la mesure qui a été votée, elle favorise au moins 80% de notre clientèle.
Mais oui, mais là, je
et
comprends.
Et nous,
là.
Ces gens-là, vous savez, M. Drainville, ils nous appellent à tous les jours. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, de ce grand-papa-là qui nous a appelé pour dire « Moi, j'ai voté en faveur de la mesure.
Oui.
J'avais mis de l'argent de côté pour mes 6 petits-enfants. Je suis conscient qu'il y en a certains qui, oui, seraient allés chercher leurs 3 paiements d'aide aux études parce que sont en bonne voie de terminer leur bac, mais il y en a d'autres pour qui le parcours choisi était tout autre. Un DEP, vous en avez parlé tantôt, ou encore une technique au cégep. Puis il dit, moi, un dans l'autre, il dit, je m'estime gagnant parce qu'au moins, il n'y aura personne d'exclu. Tous mes petits-enfants vont pouvoir aller chercher l'entièreté des sommes que j'ai mis de côté pour eux dès l'inscription.
Alors, je vais vous dire, Mme Grenier, maintenant que vous m'expliquez comment ça fonctionne, dans le fond, ce que vous dites, c'est que ça procède aussi d'une vision qui vise aussi à valoriser les diplômes d'études professionnelles puis les diplômes d'études techniques, les diplômes de 3 ans au cégep. Moi, je trouve que ça, c'est très, très bien. Ça, je suis content de ça, là. OK? Je tiens à le dire. Maintenant que vous me l'expliquez, je trouve ça très bien que un jeune ou une jeune qui décide d'aller chercher son DEP, elle devrait pas être pénalisée, elle devrait avoir droit à ses 3 paiements. Même chose pour la technique, il faut les encourager, les jeunes qui veulent aller dans une technique, on en a de besoin. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, c'est le caractère rétroactif qui est problématique. Dans le fond, vous auriez pu procéder à ces changements-là sans que ce soit rétroactif.
C'est-à-dire que si on avait, par exemple, parti un nouveau régime d'épargne études à côté, on ne serait pas venu mettre un baume sur la déception des gens dont je vous parlais, là, qui arrivent au fil d'arrivée puis se rendent compte que non, ils ont épargné tout ce temps-là, mais ils peuvent pas toucher aux trois paiements d'aide aux études parce que leur enfant choisit un parcours différent.
Okay.
On n'aurait pas pu mettre un baume sur cette déception-là. Puis écoutez, vous l'avez dit, je trouve ça très important. On remet à l'avant-plan l'importance de l'éducation ici.
Oui.
Bien au-delà du rendement, ce qui est important, c'est que nos jeunes aient accès. Vous aviez tout à l'heure une entrevue où on parlait de l'importance d'avoir des entrepreneurs, d'avoir des gens qui font leurs études. Nous, on encourage, on ne fait pas de discrimination, on encourage les études postsecondaires,
d'accord,
quel que soit le rêve de l'enfant et quel que soit le niveau d'études choisi.
OK. Ben, je comprends beaucoup mieux maintenant. Je comprends beaucoup mieux et je suis pas sûr que vous avez convaincu tous ceux et celles qui sont affectés. Par exemple, il y a un auditeur qui nous a écrit, il dit qu'il a cotisé pour ses trois enfants. On lui avait laissé miroiter que les trois enfants recevraient au total 45 000 $. Donc, il avait vraiment cotisé beaucoup. Et là, il va recevoir la moitié moins, 21 000. Lui, je pense pas que vous l'avez convaincu. Mais je comprends beaucoup mieux la logique qui vous a animé. Et je trouve que ça se défend. Je vais dire ça comme ça. OK?
Bon, bien, je vous remercie.
Isabelle Grenier, vice-présidente des affaires corporatives chez Universitas. Merci pour l'entrevue.
Merci à vous, monsieur.
Week-end fatal en motoneige en fin de semaine. On va en parler après la pause. Moi, je veux comprendre comment ça se fait qu'on est rendu à 17 décès de motoneigistes au Québec. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que la motoneige est plus dangereuse qu'avant? Moi, je pense que oui, notamment parce que les bolides sont vraiment extrêmement puissants maintenant. On est loin du petit skidou orange dans lequel je me suis promené là à travers les clôtures dans mon île du Pas natale. Mais bon, enfin, on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, on va ouvrir les lignes également parmi vous, les motoneigistes, là, si vous avez des commentaires à faire sur les raisons pour lesquelles on a autant de décès en motoneige, vous allez pouvoir vous exprimer après la pause.